Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 juillet 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Formation d'un nouveau gouvernement, mais sans grand changement hier en Côte d'Ivoire.
Au Sénégal, le pouvoir accusé d'utiliser la justice contre des rivaux potentiels de Macky Sall à la présidentielle de 2019.
En RDC, enquête de la justice militaire sur les récents affrontements meurtriers sur le lac Édouard entre la force navale congolaise et la marine ougandaise.
Arrivée du président américain Donald Trump à Bruxelles, où se tient aujourd'hui et demain le sommet de l'OTAN.
En Thaïlande, tous les jeunes footballeurs et leurs entraîneurs ont été évacués, sains et saufs de la grotte inondée.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho pour l'instant, le journal.
La Côte d'Ivoire a un nouveau gouvernement depuis hier avec 41 ministres et secrétaires d'État contre 34 pour le précédent. Mais le président Alassane Ouattara n'a pas réalisé de grands changements. Claire Morin-Gibou.
Alassane Ouattara a reconduit à leur poste les barons du RDR, Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre, Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, Marcel Amontano aux Affaires étrangères et Kandia Camara, la secrétaire générale du RDR à l'Éducation nationale. Le président Ouattara a gardé au gouvernement les ministres PDCI qui se sont déclarés favorables au RHDP, notamment Kobenan Kwasi Adjoumani, qui a lancé un mouvement dissident à l'intérieur de son parti. Albert Toiqueuse-Mabri, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est de retour comme ministre de l'Enseignement. Il s'était prononcé en mai pour la formation du parti unifié. Le nouveau gouvernement ivoirien est très similaire au précédent, largement dominé par le RDR au pouvoir et ouvert aux personnalités favorables au projet de M. Ouattara d'avoir un grand parti unifié. Le président Ouattara cherche à élargir ses soutiens faute d'un accord avec son grand allié, le PDCI, avant les élections de 2020.
Toujours en Côte d'Ivoire, un soldat français a été tué et un autre gravement blessé hier dans le crash d'un hélicoptère militaire français près d'Abidjan, selon une source militaire française. L'hélicoptère de type Gazelle s'est écrasé vers 17h temps universel à Modeste, un village situé à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale économique ivoirienne, tout près de la côte, selon cette source qui s'exprimait sous couvert d'anonymat.
Au Sénégal, les avocats de deux opposants condamnés pour corruption, le maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Ouad, ont accusé hier le pouvoir d'utiliser la justice pour les éliminer de la course à la présidence prévue en février 2019. Le point avec Eki Abadou.
Le procès en appel du maire de Dakar se poursuit en présence de la défense qui avait quitté la salle lundi pour protester contre le rejet de ses demandes de renvoi. Pour Maître Hussein Oufal, un de ses avocats, la peine de prison de Khalifa Sall est un acte purement politique. On veut l'empêcher de participer à l'élection présidentielle de 2019. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars à 30 ans de prison pour détournement de fonds publics. Karim Ouad, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Ouad, a été condamné en 2015 à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle en juin 2016 et depuis vit à l'étranger. Ses avocats ont dénoncé hier sa radiation déguisée des listes électorales, la qualifiant d'arbitraire et illégale. Le pouvoir du président Macky Sall se défend de toute implication dans les poursuites de ses deux opposants, affirmant avoir laissé la justice suivre son cours.
Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné le 30 mars donc à 5 ans de prison pour détournement de fonds publics. Au Niger, 3 ans de prison ont été requis hier soir par le ministère public à l'encontre de 3 figures majeures de la société civile nigérienne détenues depuis mars après une manifestation interdite. Les 3 concernés sont, selon leurs organisations, Ali Idrissa, responsable du ROTAB, Moussa Tiangari, secrétaire général de l'AEC, et Nuhu Arzika, président du MPCR. Le ministère public a par ailleurs requis un enfer ferme pour une dizaine de détenus et demandé la reclaxe pour deux autres. Selon un avocat de la défense, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet.
En République démocratique du Congo, la justice militaire a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur les affrontements meurtriers sur le lac Édouard entre la force navale congolaise et la marine de l'Ouganda. Précision d'Irénée Eman-Ngbou.
Selon le lieutenant-colonel Kumbungoma de la cour martiale du Nord Kivu, le parquet militaire est déterminé à connaître et dans les moindres détails les conditions dans lesquelles se sont déroulés les incidents survenus sur le lac Édouard entre la force navale congolaise et la marine ougandaise. Le juge militaire congolais indique avoir déjà interrogé le commandant de la force navale, son adjoint, un militaire et un pêcheur congolais blessé par balle. Il précise aussi avoir interrogé le militaire congolais qui avait lancé une roquette qui a coûté la vie à 4 militaires ougandais. Difficile cependant pour l'officier de se prononcer pour l'heure sur les circonstances dans lesquelles 12 pêcheurs ont trouvé la mort lors des incidents. Lundi, un responsable local congolais avait donné un bilan provisoire de 12 pêcheurs congolais tués et d'une dizaine d'autres portée disparue. Une délégation congolaise est à Kampala depuis hier pour tenter d'apaiser les tensions.
En Guinée équatoriale, les prisonniers politiques sont toujours incarcérés malgré l'amnistie totale décrétée le 4 juillet par le président Teodoro Obiangema en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. C'est ce qu'a dit à l'AFP hier à Malabo le chef de l'opposition Gabriel C. Obiang. Cette amnistie avait été annoncée en prélude à un dialogue national convoqué par le président équato-guinéen lui-même du 16 au 21 juillet.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à se prononcer en fin de semaine sur l'imposition d'un embargo sur les armes au Soudan du Sud. Plusieurs pays, dont la Russie, la Chine et l'Éthiopie, sont contre, ne voulant pas, selon eux, mettre en péril la médiation menée par l'organisation régionale IGAD. Cette médiation a conduit samedi à un autre accord de partage du pouvoir entre les belligérants, en attribuant au chef rebelle Riek Machar un poste de vice-président. En revanche, les États-Unis et leurs alliés européens soulignent la fragilité de l'entente et prônent la pression maximale pour avancer vers la paix, selon des diplomates.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump est arrivé à Bruxelles où doit participer aujourd'hui et demain au sommet de l'OTAN. Hier, M. Trump a de nouveau accusé des pays membres de l'Alliance Atlantique d'être défaillants depuis des années dans leurs dépenses militaires. Abdourahman Dia.
Dans un tweet hier, le président Trump a même suggéré que ces pays remboursent aux États-Unis des arriérés. De nombreux pays de l'OTAN que nous sommes censés défendre non seulement ne tiennent pas leur engagement de 2%, mais depuis des années sont défaillants dans leurs paiements qu'ils ne versent pas. Vont-ils rembourser les États-Unis? S'est demandé Donald Trump, qui continue de réclamer aux Européens d'accroître leurs dépenses militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2% de leur PIB en 2024. 4 pays respectent leurs engagements de consacrer 2% de leur PIB à la défense. Il s'agit des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Grèce et de l'Estonie. 4 autres, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et la Roumanie, le seront pour la fin de l'année, selon Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Le président américain a prévenu que le sommet transatlantique risquait d'être tendu. Il a même estimé que sa rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki le 6 juillet pourrait être plus facile que cette réunion de l'OTAN.
La Chine a averti aujourd'hui qu'elle serait forcée de prendre des mesures de représailles après les nouvelles menaces de Washington d'imposer des droits de douane punitifs sur 200 milliards de dollars d'exportation chinoise. Dans un communiqué, le ministère chinois du commerce a qualifié les nouvelles menaces américaines de totalement inacceptables et estimé que le comportement irrationnel des États-Unis nuisait à la Chine, au monde et à eux-mêmes.
Au Pakistan, où des législatives sont prévues le 25 juillet, au moins 13 personnes, dont l'influent homme politique local Haroun Bulur, ont été tuées hier soir et une cinquantaine d'autres blessées dans un attentat suicide à Peshawar, dans le nord-ouest. Selon la police, l'attentat visait une réunion électorale de la formation Awami National Party, qui a déjà été la cible de représailles de militants islamistes pour avoir manifesté son opposition à des groupes comme les talibans.
Au Japon, les inondations et glissements de terrain après de terribles précipitations dans l'ouest du pays ont tué au moins 179 personnes, a annoncé aujourd'hui le gouvernement. Le premier ministre Shinzo Abe se rend sur place aujourd'hui.
Voilà, c'est tout pour cette édition, pour ce journal. Maintenant, la Minute Éco avec Raissa Gironda.
Plus de 1 800 milliards de francs CFA d'investissements privés ont été obtenus entre 2015 et 2017, selon le directeur général du CPC, le guichet unique de l'investissement dans le pays. Emmanuel Smelessi a ajouté que plus de 111 000 emplois ont été générés sur la même période. L'Union européenne alloue 90,5 millions d'euros à des programmes de gestion des flux migratoires africains. Selon la Commission européenne, les trois nouveaux programmes concernés en Afrique du Nord renforceront la gestion des frontières et protégeront les réfugiés et les migrants contre les trafiquants. La Banque mondiale fait un don de 35 millions de dollars au Tchad. Ce fonds va appuyer les efforts d'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, fiscales et douanières, renforcer les capacités institutionnelles des ministères en charge des finances et du budget, du pétrole et de l'énergie, et des télécommunications et nouvelles technologies de l'information. La Chine promet 20 milliards de dollars de prêts et 124 millions de dollars d'aide financière à plusieurs pays du Moyen-Orient, dont la Syrie et le Liban. Le président Xi Jinping affirme que le but est de relancer la croissance économique de la région. Beijing s'investit au Moyen-Orient avec, notamment pour objectif, son projet de nouvelle route de la soie, qui vise à relier la Chine à l'Europe via un réseau de routes, voies ferrées, ports, sites énergétiques et qui passera par le Liban.
Notre page sport avec Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Allez, on connaît bien évidemment le nom du premier finaliste de cette Coupe du Monde 2018. La France a fait le dos rond hier face à une équipe de Belgique dynamique, mais les Diables Rouges n'ont pas su concrétiser leur bonne entame de match face à des Bleus expérimentés. C'est sur coup de pied arrêté que Samuel Umtiti, de la tête en deuxième période, a permis à l'équipe de France de se qualifier pour la troisième finale de son histoire. On écoute tout de suite le coup de sifflet de Jules Valentin. Oui.
Bonjour. La France qui sort victorieuse de la finale avant la lettre, l'opposant au voisin belge, c'est le dernier obstacle qui conduit vers l'objectif initial non avoué. Ramener cette Coupe du Monde de Russie et effacer la déception finale de l'Euro 2016. Dans un match serré et tendu où l'enjeu a tué le jeu, l'équipe de France, disciplinée tactiquement en défense, lucide et réaliste en attaque, a trouvé la faille sur un coup de pied de coin bien repris par Umtiti à la 51e minute. Dès lors, le service minimum rempli, les Français qui se retrouvaient dans la configuration tactique qui leur réussit le plus ont su contenir une équipe belge qui n'a pas pu profiter de son temps fort dans la première demi-heure de jeu et a tardivement fait entrer Mertens plus offensif que Dembélé. Les Belges paient cher le non-respect d'une logique élémentaire. C'est en attaquant qu'une équipe faite pour marquer doit espérer gagner un match capital. Pour l'équipe de France, cette deuxième finale d'affilée, après celle de l'Euro 2016, confirme le statut actuel de la sélection comme puissance incontestable du football mondial et amène la génération qui la constitue au même niveau que celle glorieuse de 1958, 82-86 et 98-2000. À la différence qu'ici, la vedette, c'est le groupe. Mais l'heure n'est pas encore à l'autosatisfaction. Il reste un essai à transformer. À demain.
Merci Jules. Et ce soir, 18h, temps universel, la deuxième demi-finale entre la Croatie et l'Angleterre, qui dispute sa première demi-finale depuis la Coupe du Monde 90. Les Croates avaient atteint ce niveau de la compétition en 1998. Enfin, l'information qui a secoué la planète football hier, Cristiano Ronaldo qui quitte le Real Madrid pour la Juventus Turin, un contrat de 4 ans et un salaire annuel, tenez-vous bien, de 30 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Ça laisse rêveur.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous le disions hier, l'élection présidentielle au Cameroun a été fixée au 7 octobre selon un décret du président Paul Biya. Entre les troubles des régions anglophones et la menace Boko Haram dans l'extrême nord, cette élection se tiendra dans un contexte délicat. Le décret du président Biya a suscité beaucoup de réactions à Douala, Claire Morin-Gibourg.
À 85 ans et plus de 35 ans de pouvoir, le président Paul Biya n'a pas annoncé s'il serait candidat à un septième mandat, même si ses partisans le présentent comme leur candidat naturel. Le scrutin aura lieu dans un contexte difficile avec l'insurrection des séparatistes anglophones et les incursions sanglantes de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, a déjà désigné son candidat, Joshua Ossi. Pour le porte-parole du SDF, Robert Wafo, il est évident que le président Biya sera candidat à sa propre succession.
Dans un pays qui se respecte et qui se veut démocratique, que le président de la République, qui sera par ailleurs candidat à sa propre succession, soit contrairement à ce candidat le détenteur exclusif de la date de convocation du corps électoral. Dans d'autres pays qui se respectent, où la démocratie est ancrée, la date d'élection présidentielle est connue au minimum 12 mois à l'avance.
C'est le silence au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC au pouvoir, sur une éventuelle candidature du président Biya. Hervé Emmanuel Nkomkard préfère souligner la légalité du décret.
Je ne suis pas surpris, parce que l'État est un légaliste, c'est un républicain. Il le fait dans le cadre de la loi, à respecter les délais. Et il a bien fait de convoquer cette élection présidentielle qui va être un grand moment de vérité républicaine parce que le peuple souverain choisira démocratiquement et dans le cadre de la loi de la République le destin qu'il veut, qui doit être le sien.
Akere Mouna, avocat et ancien vice-président de Transparency International, Maurice Kanto, chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et l'homme d'affaires Jean-Blaise Couette ont annoncé leur candidature. La présidentielle au Cameroun est un scrutin à un seul tour. Même si le président Biya n'a pas encore dit ses intentions, pour Elimbi Lobé, membre de la plateforme de l'opposition, le principal problème réside dans le fait que les potentiels candidats n'ont qu'une dizaine de jours pour déposer leur candidature.
Le corps électoral vient d'être convoqué. Dans 10 jours au plus tard, les candidatures devront être déposées, déclarées. Eh bien, l'opposition n'est pas parvenue à se donner la main, à avoir une candidature de large consensus.
Le conflit armé dans les zones anglophones risque de perturber le scrutin prévu le 7 octobre si, d'ici là, une solution n'est pas trouvée.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Guinée, des milliers de manifestants étaient dans les rues de Conakry pour dire non à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Le gouvernement guinéen a fixé le prix du litre à 10 000 francs guinéens, soit une hausse de 2 000 francs guinéens. La décision est impopulaire et les organisations de la société civile demandent son annulation. Cette nouvelle crise sociale s'ajoute à la grève des syndicats des travailleurs guinéens. Il est exigé du gouvernement le maintien du prix du litre du carburant à 8 000 francs guinéens. On fait le point avec le correspondant de VOA Afrique à Conakry, Zakaria Camara.
Ils viennent de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Tous sont sortis pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Alpha Limou, informaticien.
À 10 000 déjà, la vie est très chère en Guinée, tout le monde le sait. Et actuellement, tous les taximètres ont augmenté le prix du transport. Chacun déjà, il y a l'anarchie.
L'anarchie, c'est aussi les mesures d'accompagnement qui n'ont pas suivi l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Pour ce jeune leader, le peuple ne peut pas continuer à serrer la ceinture. Badra Koné.
Ce qu'on n'a pas compris qui nous a amené à cela, c'est le fait que Monsieur le Président de la République, le premier exemple du pays, n'a pas accepté de diminuer son train de vie et le train de vie de sa suite, qui est le gouvernement, j'en passe. Mais il nous impose, nous, un prix
alors que le peuple est un peuple pauvre. Le peuple ne peut pas, n'est-ce pas, être capable de payer le litre à 10 000 francs au jour d'aujourd'hui.
Ils étaient plusieurs milliers de Guinéens à marcher à Conakry à l'appel de Debout Citoyen, un mouvement des organisations de la société civile guinéenne. Les responsables des partis politiques sont aussi sortis pour apporter leur soutien. Faya Minimono, président Bloc Libéral.
Nous sommes le peuple et nous sommes là pour dire que nous ne pouvons plus serrer la ceinture au-delà. Ça a touché les autres.
Tout comme les syndicats des travailleurs guinéens, les civils guinéens dénoncent une décision unilatérale. Sékou Koundouno.
Démarche unilatérale, corruption généralisée, clanisme au sommet de l'État, géontocratie, détournement des deniers publics, non-sécurisation des recettes de l'État. Nous estimons que cette démarche, on va plier ce gouvernement. Tant qu'ils ne viendront pas à de meilleurs sentiments.
Ce mardi est aussi une journée de grève à l'appel des syndicats des travailleurs guinéens, des syndicats qui discutent depuis une semaine avec le gouvernement guinéen sans parvenir à un accord. Le gouvernement guinéen, lui, a dit qu'il ne peut plus continuer à subventionner le carburant. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Controverse au Nigeria suite à la décision du gouvernement de distribuer plus de 300 millions de dollars aux familles pauvres du pays. Il s'agit de l'argent détourné par l'ex-président Sani Abacha pendant les années 90. Les fonds ont été récemment restitués par les autorités suisses. Correspondance de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique à Abuja.
L'argent doit être versé à environ 300 000 ménages, un versement mensuel d'environ 14 dollars chacun. Cependant, les Nigériens se demandent si c'était la meilleure façon de distribuer l'argent et se posent des questions sur les critères du gouvernement pour identifier les foyers dits pauvres au Nigeria, alors que 70% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Stephia Omoizi est comptable dans une ONG locale impliquée dans le développement communautaire.
C'est une bonne chose, mais j'ai un problème. Comment ils identifient un certain nombre de personnes comme pauvres? Est-ce qu'ils vont publier la liste des pauvres pour que nous puissions faire nous-mêmes des recherches indépendantes sur eux? Nous voulons tous ces détails pour se rassurer que ces fonds seront effectivement remis aux pauvres du Nigeria.
Certains veulent que ces fonds soient investis dans les projets de développement en faveur de ces pauvres communautés. C'est le cas de Chambers Umezulike, chargé des programmes à Code, qui vient de rentrer d'une tournée dans les communautés rurales.
Tout d'abord, nous avons sillonné les communautés et cela nous a permis de voir l'état critique des infrastructures dans ces communautés, de la santé à l'éducation et de l'approvisionnement en eau potable. Et plus que ça, donc les communautés ont vraiment besoin de services sociaux. La pauvreté domine également dans les zones rurales.
La décision du gouvernement de distribuer l'argent aux ménages dits pauvres ne passe pas aussi facilement chez beaucoup d'autres Nigérians. À quelques mois des élections générales, les présidentielles de 2019. Ils craignent que le don d'argent puisse être vu comme un effort pour obtenir des votes. Témoignage dans les rues d'Abuja au micro de VOA Afrique.
Because election is few months to come.
Parce que nous sommes à quelques mois des élections et c'est maintenant que vous devez décider de distribuer les fonds détournés par Abacha aux communautés. Pourquoi vous voulez distribuer cet argent à certaines communautés? Pourquoi vous ne faites pas de programme de développement durable ou de la formation des jeunes? Donc, je pense que c'est une motivation politique.
À mon avis, ce n'est pas une bonne décision. Pendant la période électorale, ce n'est pas un fait nouveau. Et ça ne fait pas de débat aussi de voir nos leaders en train de prendre certaines initiatives en distribuant de l'argent et autre chose aux gens.
Le Parlement nigérien, suite à un débat autour de la question, est resté divisé et a rejeté l'initiative du gouvernement, évoquant des inquiétudes de transparence dans le processus. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur l'accord historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée pour mettre un terme à deux décennies d'état de guerre qui avaient déchiré les deux pays frères. Quelles sont les réactions à cet accord de paix? Le processus ira-t-il jusqu'au bout? Que représente pour l'Éthiopie les réformes que multiplie le Premier ministre Abiy Ahmed? A-t-il le soutien de toutes les couches de la population éthiopienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Ne manquez pas Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h30.
S'agissant justement de l'Érythrée et de l'Éthiopie, ces deux pays ont signé à Asmara une déclaration mettant fin à 20 ans d'état de guerre. La déclaration confirme la reprise du commerce, des transports et des télécommunications, le rétablissement des relations diplomatiques. Les deux voisins se sont livrés une guerre fratricide qui a fait quelque 80 000 morts de 1998 à 2000. L'Éthiopie a promis de rendre la ville de Badme, qui était au cœur du litige, sur le tracé de la frontière. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, Idriss Fall a joint Sigé Chifero, journaliste éthiopienne basée à New York.
Nous avons à l'heure actuelle un Premier ministre qui n'est pas issu d'un groupe ethnique en rapport avec l'Érythrée. Avant la nomination de Haile Mariam Desalegn, le Premier ministre Meles Zenawi était du Tigray, province qui est frontière avec l'Érythrée et qui a une langue commune, une culture commune. Et peut-être parce qu'elles sont sœurs, elles avaient des différences plus profondes que si elles avaient été des provinces complètement séparées linguistiquement ou culturellement.
D'autant que l'Érythrée avait participé à la conquête d'Addis Abeba.
Pendant la libération du pouvoir de Mengistu Haile Mariam, oui, absolument. Ces deux régions étaient très proches quand il s'est agi de se débarrasser d'un ennemi commun, à savoir Mengistu Haile Mariam. Ensuite, on prit des décisions chacune dans leur intérêt. Par la suite, bon, il y a eu des différends qui se sont envenimés et qui ont ensuite mené à une guerre frontalière. Et à l'heure actuelle, vous avez un jeune Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui lui, en fait, est issu, il est à moitié Amhara, c'est-à-dire soit 20 millions d'habitants à peu près, et il est à moitié Oromo, ce qui représente 27 millions à peu près d'Éthiopiens. Et en plus, il est à moitié chrétien et à moitié musulman.
À l'époque de la guerre, il n'avait qu'une vingtaine d'années.
Absolument. Et cette rupture a eu un impact économique majeur, aussi bien en Éthiopie qu'en Érythrée, puisque bon, l'Éthiopie a perdu son débouché sur la mer une fois que l'indépendance a été acquise. Et l'Érythrée a perdu aussi un partenaire économique une fois que la guerre a eu lieu. Et les rapports ne se sont jamais améliorés entre les deux, puisque on avait deux leaders, à savoir Meles Zenawi d'un côté et Isaias Afwerki de l'autre, qui ne s'entendaient absolument pas, parce qu'ils se connaissaient beaucoup trop bien.
Maintenant, les Américains, quand même, apparemment, ont joué un rôle, parce que l'Érythrée, c'est sur la mer Rouge. C'est juste en face du Yémen, non?
C'est exact. Les États-Unis ont toujours été présents dans la sous-région, même pendant la guerre de libération du régime de Mengistu Haile Mariam. Les États-Unis avaient été auparavant même présent comme partenaire de la monarchie de Haile Selassie. Les États-Unis ont toujours été présents et le sont probablement encore aujourd'hui.
L'établissement des liaisons téléphoniques, aériennes, Addis va avoir accès à la mer maintenant, non?
C'est difficile de savoir comment le programme va se mettre en place. On en est déjà à de bonnes relations diplomatiques. Je pense que tout le monde va prendre ça lentement mais sûrement. Les idées ne manquent pas. Les relations économiques vont-elles s'améliorer sûrement? Mais quand? Personne ne le sait jusqu'à présent. Je ne pense pas savoir qu'il y ait un calendrier déjà mis en place. C'est un peu trop tôt. Donc je pense que tout le monde est prudent. Mais en tout cas, en Éthiopie, dans la capitale, beaucoup apprécient ce geste tant attendu de la part du gouvernement éthiopien qui aussi souhaite mettre en œuvre les accords d'Alger. C'est quand même pas rien.
Sigé Chifero, journaliste éthiopienne basée à New York.
Hey, Kidio, Ziki Babanga.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Georges Léonard Stagnaud pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.